Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. On se retrouve comme tous les mercredis à 19h pour passer en revue l'actualité des scènes à Bruxelles, ou peut-être que vous nous écoutez également en rediffusion. Ce sera le jeudi alors à 13h30, toujours sur cette même antenne. Alors, la fin de saison se fait sentir et le retour des festivals de fin d'année aussi. On a déjà clos le Kunsten Festival des Arts, et nous revoilà maintenant avec le D-Festival, festival de danse et de chorégraphie qui nous est proposé du côté du théâtre Marnie. On aura d'ailleurs un invité qui viendra nous parler de sa création. Il s'agit de Harold Henning pour le spectacle Stay on the Scene. Mais on va aussi parler du D-Festival avec Catherine qui nous rejoint par téléphone. Bonjour Catherine. Alors, ce festival, on a toujours un plaisir quand même à le retrouver parce que c'est vraiment une petite respiration chorégraphique en fin d'année avec des créations souvent originales.
Oui, et un bel exemple sans doute de cette originalité, c'est Weltanschauung, donc de Clément Thirion, que l'on a vu au Théâtre de la Vie il y a quelques semaines et qui revient au D Festival. C'est assez emblématique parce que je ne sais pas très bien si on est là dans la danse ou dans la performance ou dans le théâtre. Mm-hmm. Tout à fait, avec un titre qui pourrait paraître assez pompeux et un résumé qui pourrait paraître tout aussi ambitieux puisqu'il entreprend d'interroger la création, que ce soit la création divine, la création artistique. Alors on se dit ouïouïouï, sauf qu'il s'agit sur scène de Clément Thirion et de Gwen Berrou qui sont deux artistes assez allumés. Et qui vont bien sûr prendre tout ça à bras-le-corps avec une féroce autodérision. On le comprend tout de suite quand on les voit arriver en moon boots à poil et en costume lycra.
C'est les moon boots qui sont à poil.
Oui, c'est ça. C'est pas eux qui sont à poil, c'est les moon boots qui sont poilus. Et alors, voilà, ça brasse très large. C'est assez inracontable, comme souvent avec les créations de Clément Thirion, mais on peut quand même dire que pendant une heure et demie, on va parler de l'histoire du silex biface, des hominidés, du chaînon manquant, de l'art expressionniste allemand, de neurologie autonomique.
De Klaus Nomi.
De Klaus Nomi, évidemment, avec Total Eclipse notamment. Mais qu'il y aura aussi du Michael Jackson, qui aura des effets vidéo assez drôles, des danses primales espiègles, et puis ils utilisent aussi un iPad pour lequel ils ont confectionné une housse préhistorique. Et voilà, tout ça se déroule avec plein de références très décalées, c'est très ludique. On a l'impression du coup que c'est bricolé, mais finalement pas du tout. On comprend à la fin que tout ça, c'est assez bien agencé, avec une fin en pointillé qu'on ne peut pas vous révéler, mais peut-être dire que pour le D Festival, Clément Thirion a concocté une nouvelle fin qui devrait être assez explosive et très dansée justement.
Explosive, avec lui je prends ça au mot.
Oui, tout à fait. Et dire peut-être aussi qu'il sera au D Festival avec un autre projet qui s'appelle The Blast Dance,
ouais.
Qui est un projet entre danse et flash mob. Mm-hmm. Ces événements qui interviennent dans les espaces publics pour surprendre les gens. C'est un projet qui en fait est issu de Weltanschauung et qui continue maintenant une espèce de vie parallèle et autonome.
Pour en terminer avec Weltanschauung et de Blast Dance, sachez que ça se passera du 19 au 21 juin dans le cadre du D Festival, chose à retenir donc pour ce spectacle qu'on a déjà eu l'occasion de voir, mais avec une nouvelle fin, nous dit-on, eh bien on ira découvrir ça. On vous donnera toutes les infos pratiques en fin de cette émission. Merci Catherine.
Et puis, on peut aussi peut-être dire que tous ceux qui veulent participer au Blast Dance, c'est ouvert à tout le monde.
Ah oui,
c'est
oui, oui, bien sûr.
Les 15 et 16 juin. Mm-hmm. Évidemment, au plus il y a de monde, au plus c'est réussi, donc précipitez-vous.
On mettra toutes les infos sur notre site www.radiocampus.be. Merci Catherine.
Merci.
À bientôt. Salut.
À bientôt.
Et on retourne dans notre studio ici, toujours pour parler de ce défestival, et nous accueillons Harold Henning. Bonjour Harold.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans cette émission. Tu viens nous parler d'un spectacle que tu as créé pour ce festival. Tu l'as déjà présenté à la Compile d'Avril, c'était à Charleroi Danse, et ça s'appelle Stay on the Scene. On reste sur la scène parce que toi, tu as la particularité de nous inviter en fin de spectacle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la pièce débute par la fin d'un autre spectacle que le spectateur n'aura pas vu. Donc, en gros, je dévoile peut-être un peu la chose, mais le spectateur interrompt, en quelque sorte, ou entre...
Par l'arrière, comme ça, un petit peu.
Oui, c'est un peu l'idée, oui. Mmh. Que le spectateur arrive dans la salle alors qu'un autre spectacle est déjà en cours. Mmh. Et arrive à sa fin.
Mmh. Trois artistes, dont toi, tu sont sur scène, hein, donc pour ce spectacle. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Parce que les lumières se rallument après un spectacle. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, tout le monde, y compris le spectateur, sort d'une sensation où il était dans un spectacle, où il était dans un cadre bien précis. Et si tu veux justement mettre en scène leur cadre, on va dire leur cadre du spectacle un petit peu.
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le spectateur serait invité à découvrir ce qu'il pourrait se passer alors que les interprètes ont quitté le plateau, les spectateurs eux-mêmes sont sortis de la salle, et donc on se retrouve dans un théâtre vide, et voilà, qu'est-ce qui peut s'y passer. Mmh. Donc l'idée, c'est que les interprètes ont quitté le plateau, mais leurs corps sont restés là. Mmh. Donc les corps se réaniment, et au même titre que les corps, les éléments qui constituent le théâtre lui-même, que ce soit le son, l'espace et deux, trois éléments des accessoires. Par
alors ces corps restent, est-ce qu'il y a une mémoire du spectacle qui vient de se jouer ? Enfin, le spectateur, ça ne le saura jamais.
Voilà, oui, non, exactement.
Mais c'est vraiment une réflexion plutôt sur la mémoire du spectacle ou sur ce qui reste après ?
On va dire que c'est plutôt une naissance du jeu. C'est-à-dire que les corps qui restent là vont se réanimer et vont retrouver une façon de jouer entre eux, avec juste un espace vide, donc avec les corps eux-mêmes, et éventuellement avec les quelques accessoires qui se trouvent là. Donc c'est un peu comme si tout le théâtre vide, corps des interprètes y compris, reprenne vie.
Jeu ou danse, ou les deux ?
Les deux.
Les deux, voilà. Ouais. Quel mouvement as-tu voulu travailler ? Quelle expression t'as voulu travailler de...
Mais au départ, l'idée de cette pièce venait du fait que dans un espace vide, des corps interprétaient le décor et les protagonistes qui traversent ce décor. Mmh. Donc voilà, la gestuelle, elle vient du fait qu'on puisse interpréter un espace qu'on définit par nos corps et le fait qu'on les traverse. Par exemple, si quelqu'un joue le rôle d'une porte, cette porte est traversée par quelqu'un. Mais aussitôt qu'il n'est pas utilisé en tant que porte, ça reste quelqu'un. Hein. Il ne sait pas de faire, de suggérer une clinche avec ses mains. Ça reste une présence.
Mmh. Une présence sonore également. Tu as travaillé avec Rodolphe Koster et Eric Ronce pour l'aspect musical, ou en tout cas d'ambiance sonore. Tu me parlais de soundscape. Oui. On est dans un paysage sonore plus particulièrement.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas une pièce où il y a vraiment de la musique. C'est plutôt... un paysage sonore qui tente de suggérer un espace. Par exemple... On a enregistré de l'eau qui coule dans un radiateur, comme dans un espace vide, on peut l'entendre distinctement, et on l'a légèrement amplifié, par exemple, voilà, pour renforcer ce vide.
Rodolphe Koster, qui, tu me le rappelais, avait travaillé avec Flexalindo, dans le projet Flexalindo,
oui, c'est ça.
Et qui vient t'aider dans ce cas-là. Au niveau lumineux, on sera dans quelque chose de très pas froid, mais brut en tout cas.
Assez brut, oui, tout à fait.
Mais comme quand les lumières se rallument après un spectacle.
Exactement, mm-hmm. Ouais.
Juste pour que les gens ne tombent pas dans les escaliers.
Oui, bien sûr, on fera en sorte que les gens ne tombent pas dans les escaliers.
Mais c'est pour ça qu'on rallume d'habitude les lumières. Oui. Alors, ce Stay on the Scene, c'est l'amorce d'un triptyque que tu veux créer. Un triptyque qui parlera de quoi ?
Le triptyque, il parle de la disparition, oui, et de l'éloignement. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, Stay on the Scene, c'est le premier volet de ce triptyque.
Où quelque chose reste finalement encore avant de s'éloigner.
Au début, on va dire que quelque chose reste et qui est la naissance de tout ce qui va disparaître, ouais, jusqu'à la fin, mmh, du triptyque. Donc le premier triptyque, c'est un trio. Le premier volet du triptyque, oui, mmh, c'est plutôt ça. C'est un trio. Le deuxième volet, c'est un duo qui est en fait deux personnes distinctes qui tentent à se ressembler. Donc plus qui tente à ne devenir plus qu'une personne. Et le troisième volet, c'est basé sur l'idée du roman de Shrinking Man, The Incredible Shrinking Man, qui est en fait un roman de science-fiction des années 50 où le personnage rétrécit jusqu'à disparaître, ou pas, justement.
Mmh. La petitesse des personnages, ça t'intéresse, hein ? Ou les personnages qui disparaissent ?
C'est la disparition en soi, oui. Oui. La dissolution, mm-hmm, oui. Oui, ça m'intéresse, oui, tout à fait.
Alors, pour resituer un petit peu auprès de notre public qui ne sont peut-être pas, qui ne te connaissent pas, tu es passé par diverses compagnies. Tu as travaillé avec Pierre Droulers, les Balaissés de la Baie également. Oui. Tu étais encore récemment dans Messiaen de Hans van den Broek. Ce sont des expériences qui t'ont aidé à créer ici aussi ?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que j'exerce ce métier comme, oui, interprète, acteur, danseur. Et donc, forcément, on est toujours nourri par les rencontres qu'on fait.
Comment se fait le déclic d'interprète à créateur ? C'est des envies qui te suivent depuis longtemps ?
Oui, ce sont des envies qui me suivent depuis longtemps. Et je crois que, en ce qui me concerne, bon, c'est un désir que j'ai toujours eu, mais je ne sentais pas que le moment était venu. Et puis parfois, je crois que c'est aussi, en ce qui me concerne moi en tout cas, nourri peut-être par certaines frustrations qu'on peut avoir avec les créateurs avec qui on travaille. Mmh. On traverse des tas de propositions scéniques, et puis de temps en temps, il y en a qui sont laissés sur le côté, et puis de temps en temps, nous, en tant qu'interprète, on a envie d'y s'y arrêter un peu plus et de le développer. Et puis, on mélange un petit peu ce qu'on a appris chez l'un et chez l'autre. Et puis, ça,
on le reprend pour soi, on le
reprend pour soi. Oui, oui, bien sûr, mmh, tout à fait. Parce que je pense que la pièce Stay on the Scene ne ressemble ni à une pièce de Pierre Droulers, ni à une pièce de Hans van den Broek. Et pourtant, quelque part, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas nourrie des rencontres que j'ai faites avec ces chorégraphes-là.
Ce sera en tout cas une pièce de Harold Henning qu'on pourra découvrir.
Je crois.
Découvrir du côté du D Festival. Ce sera du 12 au 14 juin à 20h. Ce sera dans la grande salle.
Oui, dans la grande salle.
Du Théâtre Marny, dans le cadre de ce D Festival. On va quand même citer tes compagnons sur scène.
Hein. Ah oui, avec plaisir. Donc je vais les citer. Il y a Tijen Lauten, que probablement les gens qui sont habitués d'aller voir la danse et le théâtre connaissent comme interprète. Mm-hmm. Elle a travaillé pendant une douzaine d'années, je crois, avec Need Company. Mm-hmm. Il y a également Ivan Faccio, mais je précise, ne sera pas au Théâtre Marny cette fois-ci. Il est remplacé par Sara Sampelayo et moi-même. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des interprètes sur scène. Ensuite, Rodolphe Koster à la musique.
Oui.
Et la création lumière a été réalisée par Raphaël Noël.
Mmh. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour parler de ce spectacle. Encore quelques petits mots hein, sur ce Des Festivals à découvrir à partir de ce soir si vous nous écoutez mercredi. Et ça commencera eh bien, paradoxalement du côté du Théâtre Les Tanneurs avec les repropositions de deux pièces de Maria Clara Villa-Lobos. Il s'agit de XL Because Size Does Matter et M une pièce moyenne. Ce sera à découvrir donc au Théâtre Les Tanneurs jusqu'au 8 juin. De chorégraphie pour célébrer aussi le 13e anniversaire de cette compagnie de Maria Clara Villa-Lobos. Aime une pièce moyenne, une satire des mœurs contemporaines où la jouissance immédiate se banalise, mais où celle du spectateur reste bel et bien éprouvée. Et XL, Because Size Does Matter, un humour critique et décalé que l'on croque à pleines dents dans le pays du fast-food, de la danse contemporaine, l'illusion du progrès, l'ascension sociale et la starification sont au programme. À découvrir aussi lors de ce festival Giovanni Scarcella, Raffaella Pollastrini avec Forbidden Destination, The External Body, où on danse et BD se mêleront, en tout cas des univers qui se mêleront. C'est pas encore très bien comment ça se passera, mais on pourra le découvrir du 6 au 8 juin. Et Clément Thirion, dont nous avons parlé encore en ce début d'émission. Pour découvrir tout le programme de ce festival, eh bien rendez-vous sur www.theatremarny.com. Ça commence ce soir et ça se poursuit jusqu'au 21 juin. Merci encore Harold Henning, à très bientôt. Merci. Et bonne continuation. Et nous, on poursuit en musique et on se retrouve juste après ceci.
La conspiration.
On est de retour dans la conspiration des planches et après avoir parlé de danse pour le Des Festivals, on tourne au théâtre, au texte, avec notamment une pièce qui nous est proposée du côté de l'Espace Mag. Il s'agit de Exécuteur 14 et pour nous en parler, nous avons Rachid Benbouch en studio. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de ce texte, un texte qui nous emmène dans un lieu en conflit, en tout cas, et on nous entraîne aussi à rencontrer un personnage qui vit les derniers instants de sa vie et qui va nous raconter comment il a vécu ce conflit et de manière tout à fait duale, tout d'abord en ne s'y impliquant pas et après en s'y impliquant. C'est ça un petit peu.
Oui, c'est ça. C'est un personnage qui n'a pas de nom, donc c'est Monsieur Tout-le-Monde, qui vit dans un pays séparé par séparé en trois ethnies, avec une ethnie, la sienne, qui est dominante. L'auteur a choisi de donner des noms imaginaires aux ethnies. C'est les Adamites, les Yamites et les Élites. Et donc, bon, bah, tout fonctionne bien jusqu'au jour où la guerre arrive. Il dit qu'on la sentait venir un peu quand même, mais parce que c'est les Élites qui sont des salauds, qui sont des cons, qui sont sales. Mais bon, voilà, ça fonctionnait bien quand même. Et puis, cette guerre arrive, transforme complètement sa vie, son pays, son quotidien. Mais néanmoins, il arrive à vivre avec, à vivre en dehors, en ne s'y impliquant pas, jusqu'au jour où un événement personnel fait basculer sa vie. Et alors, il est chargé de haine et il rentre dans le combat. Et pour ce faire, il va aussi se mettre en contact avec ses frères adamites et rentrer dans la religion de son ethnie. Et fort de cette fraternité-là, se sentir avoir la force et le courage d'aller dans le combat et alors y aller avec la plus extrême violence.
Est-ce qu'il pose un regard sur sa transformation personnelle ?
Mais oui, il en pose un, c'est ce que raconte le texte.
C'est le passage à l'acte.
C'est le passage à l'acte. Néanmoins, il ne considère pas qu'il a tort. Parce que l'enchaînement de tous les actes dont il va nous parler amène naturellement pour lui à ce qu'il est devenu. Donc c'est vraiment le parcours d'un être normal jusqu'à devenir un tueur sanguinaire.
Ça remet un peu en question le libre choix de chacun, où on est forcément impliqué par les événements parfois et qu'on n'a pas de prise sur eux.
Bon, là, je ne peux pas en parler véritablement. On peut faire de la théorie, mais je crois qu'on ne peut pas juger de ce qu'il en est. Par contre, on peut espérer de ce, que, de ce qu'on ferait ou ce qu'on ne ferait pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, voilà, il vit des événements extrêmement durs, complexes, traumatisants. Et il fait le choix de la violence. Et c'est pas ce que nous, dans le propos de la mise en scène, on cherche. On ne valorise pas ça, évidemment. Donc il y a une mise en perspective de ses actes, quoi.
Est-ce que le personnage sait que ces dernières heures sont arrivées ?
Oui, il est blessé. Il raconte effectivement que voilà, les exécuteurs sont arrivés à la fin dans un dernier combat et ils ont tout bousillé. Voilà, il reste là, il n'y a plus qu'à enterrer les morts. Mais il sent qu'il est à la fin de sa vie, oui.
Alors on rappelle, on ne vous en a pas encore dit, l'auteur c'est Adel Hakim.
Adel Hakim,
voilà.
Oui.
C'est Abdelmalek Kadi qui te met en scène pour ce spectacle. Adel Hakim qui avait déjà créé ce spectacle du côté français, tu l'avais vu ?
Tout à fait, je l'avais vu il y a une vingtaine d'années. Mm-hmm. C'était un spectacle très très fort, joué par Jean-Quentin Châtelain. C'est un spectacle qui a eu une longue carrière, qui a été joué de nombreuses années. Et quand Najib Galal, le directeur de l'Espace Mag, m'a proposé de faire ce projet, ben, j'ai été ravi, évidemment, parce que c'était un très très beau souvenir de théâtre pour moi. Après, la difficulté était de faire table rase du spectacle que j'avais vu, qui avait été fort et poignant, et voilà, et de faire le travail pas à pas avec Abdelmalek Kadi pour faire cette rencontre avec ce texte, avec cet univers, avec ce personnage, et faire un travail qui soit le fruit de notre collaboration, Abdelmalek et moi.
Parle-nous un peu de ce texte, de cette langue qui est utilisée. Il y a une musicalité particulière, il y a un rythme particulier.
Mais il y a une vraie poésie dans la langue, comme je disais, sur le fait que l'auteur parle d'ethnie inventée, ben il y a une volonté de sa part de ne pas être dans quelque chose de trop anecdotique. Donc il ouvre au maximum les possibilités d'imagination pour le spectateur. Et la langue est très belle, tout en étant simple. Elle n'est absolument pas complexe, mais oui, elle est imagée, il y a une poésie tout en étant absolument concrète.
Oui. Comment tu l'as approché, ce texte, toujours avec un regard extérieur pour t'aider à avancer, ou tu es venu avec quelque chose de très brut, où tu as travaillé fort en solo d'abord ?
Alors, d'abord, j'ai effectivement beaucoup lu le texte en solo, mais après, bon, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble avec Abdelmalek, lui, son travail a été de sortir complètement de toute psychologie pour essayer de rentrer au maximum dans la tragédie que représente ce texte et faire un travail de densité. Et pour ça, en travaillant très fort sur le corps, la respiration, l'énergie, mais dans une retenue très, très forte.
Parce que le questionnement du personnage, c'est de savoir s'il est victime ou bourreau également. Il a été les deux.
Voilà, oui, tout à fait.
Il est les deux.
Il est les deux, et puis surtout, après, le but, c'est d'interroger le public, quoi, de faire en sorte que, bon, on a la chance, pour le moment en tout cas, de ne pas se sentir trop concerné en se disant, ben voilà, nous en Belgique, ça va. Ben oui, mais voilà, la violence est en nous et les basculements peuvent opérer rapidement. On ne sait pas ce que la crise nous réserve, on ne sait pas si ça débouchera sur des guerres, je ne le souhaite évidemment pas, mais c'est intéressant pour tout public d'avoir accès à ce type de développement d'un personnage qui, voilà, qui part de rien, qui ne part pas d'un a priori violent, c'est ce qu'il va dire au début du texte d'ailleurs, qui tombe dedans, dans la plus atroce barbarie.
Tu nous as amené un petit extrait, justement, de ce spectacle. Je crois que c'est l'ouverture.
Hein, c'est le tout début du spectacle, oui.
Voilà. Eh bien, quand tu es prêt, on t'écoute.
Non, j'étais pas cruel quand j'étais petit. Les grenouilles, je leur coupais pas les pattes arrière avec des cailloux. J'enfonçais pas une cigarette allumée dans la gueule des lézards verts. Leur ventre, je l'ouvrais pas pour voir ce qu'il y a dedans. Et jamais j'ai arraché les ailes des mouches, même si ça leur fait pas mal. J'avais même très peur des chats. Ils sont cruels, je pensais. Avec les longues moustaches, leur tête triste et attentive, les yeux perçants, les griffes terribles. Comment ils sont tranquilles. Et tout à coup, ils se mettent en marche pour tuer, alors rien ne les arrête plus. Mais maintenant, tout ça est si loin. Lost pour toujours. J'ai plus peur des chats. C'est comme dans un temps d'avant la création. Au début, c'était un jeu. Ben oui, un jeu de gamins qui veulent être grands, c'était juste pour rire. Tirer en l'air avec des clashings pour faire peur à maman ou à petite amie. Et seulement aux grandes occasions. Le jour de l'an, la mort, le mariage, la naissance. Pour prouver qu'on était grand maintenant, qu'on n'avait pas peur du bruit, qu'on savait faire cracher le feu à la ferraille. C'était surtout fierté de le faire. C'est beau les salves. Les giclées de flammes qui déchirent le ciel. Ciel. La tête de maman effrayée et sévère. Et petite amie qui se bouchait les oreilles. Et puis ça nous permettait d'apprendre. Les armes, pour les manier, il fallait savoir comment. On ne sait jamais ce qui va arriver. Tout ce qu'on savait, c'est que les enjeux étaient importants, complexes, multiflammes. Des tentacules d'enjeux entre les clans. Et vu de dehors, comme ça, c'est chaos, les enjeux peuvent paraître mystères. Mais vécus, ils le sont beaucoup moins. Ils font partie de nous, de l'être qu'on forme. L'enjeu perçu le plus clair, parce qu'il est partial, est celui qui concerne directement l'être qu'on forme. Quand on appartient à un clan, on comprend. Moi, c'est le clan des Adamites. Le meilleur de tous. C'est de lui qu'est issu le chef suprême, depuis toujours. J'aimais être Adamite. Je pouvais rêver. J'avais une chance, petite mais vraie, de devenir un jour chef suprême de la cité. Satisfaire les ambitions des parents, maman surtout. C'était un privilège, être Adamite.
Voilà donc pour cet Exécuteur 14, un avant-goût qui nous a été offert par Rachid Ben Bouchta. Merci en tout cas pour cette interprétation. Petite question, quel est le regard qu'il pose sur lui-même? Est-ce qu'il est désemparé, démuni face à ça?
C'est plutôt, je pense, il y a une situation un peu de justification, enfin, comme s'il était un peu face à un tribunal. Face au tribunal imaginaire qui peut être l'image qu'il va laisser aux générations futures et il a besoin de parler, de dire donc pour lui les actes qu'il a posés sont justes, sont une conséquence les uns des autres des événements et donc il ne les remet pas en question, non. Il ne dit pas, il n'y a aucun moment où il va dire « je me suis trompé ». Néanmoins, en terminant, il dit « bon, ben, finalement, une fois qu'on oublie la peur, une fois qu'on oublie le tout, il y a une chose qui compte, c'est le besoin de serrer un être aimé dans ses bras ». Donc il y a, à la toute fin, il y a un abandon. Il y a un abandon qui se fait, mais jusqu'au bout, jusqu'à ce moment-là, c'est un guerrier qui parle et c'est pas... On ne se défait pas de cette carapace qu'on a endossée comme ça.
Un texte de Adel Hakim, que cet Exécuteur 14. Adel Hakim qui sera présent pour venir voir.
Demain.
On rappelle, ce spectacle, tu l'avais déjà présenté au mois de mars, toujours à Espace Mag, il revient. Une scénographie de Bettina Massa. Donc pour ce spectacle. C'est à voir du 6, donc à partir de ce jeudi et jusqu'au 8 juin, du côté de l'Espace Mag, www.espacemag.be. Et sachez que nous avons des places à vous offrir dans nos agendas culturels pour ce spectacle, matin, midi et soir, sur Radio Campus. Il y aura également des places à venir pour le D-Festival qui ouvrait cette émission. Merci Rachid Ben Bouchta.
Merci à toi.
Voilà, et on remercie encore Harold Denning d'être venu nous parler de son spectacle Stay on the Scene. Toutes les informations sur notre site internet www.radiocampus.com. www.radioscoop.be. C'est ici que s'achève la Conspiration des planches, une émission que vous pouvez réécouter également sur le site demandezleprogramme.be. Excellente semaine à vous et on se retrouve la semaine prochaine. On devrait normalement parler des Laboréales. Bonne semaine à vous.
Gracias.